La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris. On y parle de sujets sérieux.
Il n'y a pas d'édito enflammé sur le communautarisme blanc.
De sujets moins sérieux.
Ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées.
De ce qui se passe en Ile-de-France.
Je me disais qu'à Paris, on était en avance sur la province.
Et de débats pas forcément consensuels.
Parlez-nous un peu de cette coupe menstruelle.
Tous les jours, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur le 93.9.
Je vous propose une petite expérience. Nos meilleurs auditeurs et auditrices le savent, je participe tous les mercredis à 20h au Monde Zygomatique, une émission d'actualité humoristique pendant laquelle on se marre bien, voire très bien. Et pour les plus aguerris d'entre tous, il va de soi de savoir que j'y fais de manière hebdomadaire, donc une chronique cinéma sur l'une des dernières sorties. Et pour les plus merveilleux et merveilleuses des auditeurs et des auditrices, elles sauront que cette dite chronique a, une fois par semaine donc, un élément plutôt drôle, lire les avec Google des films. Alors, cette semaine, j'ai décidé de ramener ce sujet à la matinale. Non pas vous parler d'un film, mais de vous parler de nous tous, de ces locaux, et de vous lire les avis Google de Radio Campus Paris. Alors, Campus Paris, 4,7 étoiles sur Google, pas mal, bravo, on applaudit. Un seul avis à une étoile, mais rien écrit, il date d'il y a 6 ans, donc peut-être qu'on s'en moque maintenant, je ne sais pas. En revanche, Brice écrit, par exemple, il a 3 ans, je cite, la meilleure radio parisienne, sauf Chablis Hebdo, qui devrait être censurée par le CSA. C'est assez drôle de savoir que le Monde Zygomatique a remplacé Charlie Hebdo, donc peut-être qu'on devra bientôt être censuré par le CSA. Merci Brice, je le prends très personnellement, car il a écrit il y a 6 ans, je crois que je me suis trompé dans mes notes, c'est pas grave, il y a deux Brice, peut-être le deuxième Brice en tout cas a écrit il y a 6 ans, les meilleurs animateuristes du monde. Et ça, je le prends très personnellement, merci. Car j'ai reçu l'année dernière le Campus Award de la meilleure animation. Merci Brice, vraiment. Et enfin Nils, il y a 5 mois, donc pas il y a pas très longtemps, qui écrivait Radio Campus Paris est une véritable pépite pour les amateurs de découvertes sonores. La programmation est riche, éclectique et audacieuse, allant de la musique indépendante au débat de société engagée. On sent une passion et une créativité débordante à chaque émission. C'est un espace où les voix émergentes et alternatives ont toute leur place, un incontournable pour celles et ceux qui cherchent une radio différente et pleine d'énergie. Et c'est ça, finalement, Radio Campus Paris. Merci Nils, on t'embrasse. Aujourd'hui, en première partie d'émission, Guillaume recevra Thierry Vircoulon. Vous êtes chercheur, auteur, consultant et coordinateur de l'Observatoire de l'Afrique centrale et australe de l'Institut français des relations internationales, venu nous parler de la reprise de la ville de Khartoum par les loyalistes au Soudan. Deuxième partie d'émission, Hugo recevra Natacha Ratto, autrice de la BD Sex, Drug and RER. Pour les chroniques, Delila nous fera rire, Isnel nous racontera les bonnes nouvelles et Guillaume nous présentera son reportage sur la manifestation antiraciste du samedi 22 mars.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Comme dit juste avant et en studio avec nous, Thierry Vircoulon pour revenir sur la reprise de la ville de Khartoum au Soudan. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Et bonsoir. Donc c'était vendredi dernier. Donc des hommes en armes se filment, téléphone en main, en pénétrant à l'intérieur du palais présidentiel de Khartoum, la capitale du Soudan. Et donc depuis avril 2023, la guerre fait rage dans ce pays de 50 millions d'habitants, grand comme 3 fois la France, situé au sud de l'Égypte. Donc deux factions se battent pour prendre le contrôle du pays. D'un côté, l'armée gouvernementale emmenée par Abdel Fattah al-Burhan. Celui-ci est considéré comme le chef d'État de facto du Soudan après un coup d'État en 2021 et est en train de récupérer la capitale. Et de l'autre côté, face à lui, les FSR pour force de soutien rapide dirigés par le chef de guerre Emeti. Et entre les deux, les civils. Le conflit aurait fait plus de 150 000 morts et forcé à l'exode de 12 millions de personnes. Lundi encore, l'armée loyaliste aurait fait des dizaines, voire des centaines de morts lors d'un raid dans un village dans la région du Darfour. De leur côté, les FSR sont accusés d'avoir commis exécutions de masse, violences sexuelles, crimes contre des enfants, notamment contre les populations non arabes du Darfour. Et depuis un an, une troisième force destructrice s'est invitée, la famine qui se déclare dans plusieurs régions du pays. C'est l'une des plus grandes crises humanitaires au monde et en même temps l'une des moins médiatisées. Et donc avec nous pour en parler, justement, nous accueillons donc Thierry Vircoulon. Coulon. Donc bonsoir.
Bonsoir.
Donc je rappelle, hein, vous êtes chercheur associé à l'Observatoire de l'Afrique centrale et orientale à l'Institut français des relations internationales, donc l'IFRI. Alors première question, après donc des semaines de combat, on l'a dit, donc l'armée loyaliste a récupéré la quasi-totalité de la capitale du Soudan, donc Khartoum. Aujourd'hui c'était l'aéroport de la capitale. Première question, est-ce qu'on sait à quoi a ressemblé la vie des habitants de la capitale restée sur place sous l'occupation des troupes des FSR qui étaient présentes jusqu'à présent?
Bah, elle a ressemblé à la vie de tous les gens qui sont dans des zones de guerre, puisque la guerre a commencé à Khartoum en avril 2023 et n'a pas cessé depuis donc 2 ans. Et donc, même si une grande partie de la population de Khartoum a fui, il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés à la fois à Khartoum et à Omdurman, parce que ce sont deux villes qui se font face sur le Nil. Les deux grandes villes du Soudan. Et donc, les gens ont survécu comme ils pouvaient dans ces villes, avec l'approvisionnement qui arrivait difficilement à Khartoum. Mais voilà, ils ont vécu comme on vit dans toutes les zones de guerre.
Alors justement, dans ce pays, donc on a ces deux factions qui s'affrontent. Donc on a certaines villes qui sont pour l'instant, je dirais, occupées par les FSR, d'autres villes qui sont, je dirais aussi, occupées par les forces loyalistes. D'abord, si on s'arrête sur ces villes occupées par donc les forces de soutien rapide, donc les troupes rebelles, peut-être on peut les appeler comme ça, à quoi ressemble le quotidien hors situation de guerre? Est-ce qu'on sait quel type de structure politique ou sociale, qu'est-ce qui essaie d'être créé peut-être sur place dans ces villes?
Rien n'est créé dans ces villes. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs quelque chose serait créé dans ces villes. C'est simplement que les gens vivent sous la domination d'un certain camp armé. Alors, je pense qu'il ne faut pas les appeler les loyalistes, l'armée, il faut l'appeler simplement l'armée et les FSR, les FSR. Mais il n'y a pas de projet politique chez les FSR, donc voilà. La première préoccupation, c'est en effet de faire en sorte qu'il y ait de l'approvisionnement, enfin que la population puisse s'approvisionner. Et c'est très difficile en fonction des zones, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, le Soudan est un pays qui est immense, mais non seulement il est immense, mais en plus, il a peu de voies de communication. Et évidemment, la communication entre les provinces a été rendue très dangereuse par la guerre. Et certaines provinces ont été complètement isolées, notamment au sud et à l'ouest. Et par conséquent, le premier problème, c'est l'approvisionnement des marchés, et qui se fait très très difficilement, puisque, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a plusieurs régions où on est en situation de famine. À l'heure actuelle, et où il n'y a pas, à la fois il n'y a pas d'approvisionnement, mais en même temps il n'y a pas de possibilité de culture, parce que les gens vivent de l'agriculture, puisque soit il n'y a plus assez de main d'œuvre, soit il n'y a plus non plus les intrants nécessaires à l'agriculture. Donc casser l'instrument de production agricole est aussi une des causes de la famine.
Et justement, je voyais des rapports, différents rapports d'ONG et notamment également de l'ONU, indiquaient que la famine est utilisée dans cette guerre comme arme de guerre. Est-ce que vous pouvez nous détailler comment est-ce que c'est rendu possible? C'est-à-dire, on fait de la famine une arme de guerre? Comment ça, si je me pose la question de façon cynique, techniquement, comment ça se passe?
Ça veut dire qu'on utilise l'approvisionnement en aliments, ou plutôt le non-approvisionnement en aliments, pour affamer certaines régions ou certaines villes, et par conséquent, affamer l'ennemi, grosso modo, celui qu'on considère comme l'ennemi. Ça, c'est aussi une arme de guerre dans le sens où ça sert l'accès humanitaire, l'ouverture ou la fermeture de l'accès humanitaire, dans des négociations entre les belligérants et les Nations Unies ou des organisations qui apportent de l'aide. C'est quelque chose d'assez traditionnel au Soudan, puisque c'était déjà le cas lors du précédent conflit il y a 20 ans au Darfour, où là aussi la question de l'ouverture ou de la fermeture de l'accès humanitaire était utilisée par les différentes parties prenantes au conflit pour avoir des leviers politiques ou diplomatiques.
Mais justement, comment est-ce que ça se matérialise, puisque on pourrait se dire bon bah une zone est occupée justement par les forces de soutien rapide, bon bah peut-être qu'elles vont laisser l'agriculture se faire, donc les populations vont être nourries. Comment ça se fait qu'en fait on a donc ces foyers de famine un peu partout au Soudan, enfin très concrètement, voilà, comment est-ce qu'on fait, comment...
Alors, l'agriculture, elle se fait pas simplement toute seule en laissant les gens planter des graines. Déjà, faut qu'ils aient des graines à planter. Non, concrètement, je vais prendre un exemple sur cette question d'instrumentalisation de l'approvisionnement alimentaire. À un moment, le gouvernement soudanais, enfin en tout cas le général Al-Burhan, le grand de l'armée, a décidé d'interdire. Puisque les FSR se trouvent, leur fief se trouve dans le Darfour, donc à l'ouest du pays, a décidé d'interdire, de fermer la frontière à l'aide humanitaire. Des Nations Unies qui emmenaient de l'aide humanitaire du Tchad au Darfour pour nourrir les populations du Darfour.
Puisqu'on rappelle, donc, le Darfour est frontalier au Tchad, donc à l'ouest du Soudan.
Voilà, et donc à un moment, le gouvernement qui était basé à l'autre bout du pays a dit eh bien, nous interdisons, nous fermons la frontière. Alors la frontière, il ne la contrôlait pas, puisqu'elle était contrôlée par les FSR, mais comme c'était vu comme le gouvernement... en place, légitime c'est beaucoup dire, mais en tout cas celui qui était présent aux Nations Unies, les Nations Unies ont respecté ce mot d'ordre et n'ont plus amené d'aide alimentaire au Darfour. Et donc après il y a eu des discussions, etc., pour que ça se fasse. Mais voilà comment on instrumentalise la question de l'aide alimentaire et de l'approvisionnement.
Justement, j'aimerais maintenant faire plutôt une focale sur cette région, donc le Darfour, donc pour ceux et celles qui connaisseraient pas cette région, donc ça fait la taille de la France à peu près. On compte 6 millions d'habitants là-bas. Et donc c'est une zone qui est très connue, souvent tristement connue en France. Et en ce moment, donc, vous voyez, on a une obsession, une sorte d'obsession des deux armées à se combattre, notamment au nord de cette région. Pourquoi cette obsession du Darfour dans cette guerre ?
Bah, premièrement parce que le Darfour est le bastion des forces de soutien rapide. C'est là qu'elles sont nées historiquement et donc et son leader est originaire de là, premièrement. La majorité de ses combattants sont originaires aussi du Darfour. Et deuxièmement, il y a un combat autour de la ville d'El Fasher qui se trouve dans le nord Darfour, qui est la capitale du nord Darfour, et qui est en fait la seule ville dans cette région qui n'est pas tombée aux mains des FSR au début de la guerre. Toutes les autres villes du Darfour ont été prises par les FSR, sauf El Fasher. Et du coup, El Fasher donc, est dans une situation de force à l'AMO, c'est-à-dire qu'ils sont encerclés par les FSR, qui essaient de prendre la ville, mais qui n'y arrivent pas. Et donc, la ville résiste. C'est à la fois des éléments de l'armée soudanaise, mais aussi des milices locales Agawa, qui se battent contre les FSR. Et donc, c'est devenu, comme je le disais, une sorte de fort à l'AMO dans cette guerre soudanaise. Et du coup, les FSR veulent prendre la ville, n'y arrivent pas. Et l'armée, de son côté, essaie de soutenir les assiégés veut faire en sorte de maintenir ce point d'appui sur un plan stratégique. Ils veulent maintenir ce point d'appui au Darfour pour, à partir de El Fasher, reconquérir le Darfour, puisque actuellement, on peut dire que la dynamique militaire leur est favorable.
Alors, je voyais que le Darfour est une région particulièrement riche en minerais. On trouve de l'or. C'est aussi une région qui exporte énormément historiquement de bétail. Est-ce que c'est aussi un élément qui joue dans la volonté à la fois du FSR de garder cette place ? Est-ce que c'est aussi une région qui a une importance pour le gouvernement en place, ou ça pourrait être une zone finalement dans les options possibles de la fin de ce conflit, alors peut-être lointaine, mais de laisser cette zone finalement FSR, est-ce que ce serait si simple ?
Non, c'est pas si simple, parce que l'armée soudanaise n'a pas l'intention de laisser quoi que ce soit au FSR. Et donc, comme c'est leur bastion historique, une fois qu'ils auront fini de prendre la partie centrale, on va dire, du pays, ils iront à l'offensive sur le Darfour, parce que, comme je le disais, c'est le bastion historique des FSR, et ils n'ont pas l'intention de leur laisser ce refuge.
Mais donc bastion, finalement, ça reste donc un bastion historique. J'imagine qu'on ne fait pas partir en même temps une donc ces FSR, on les ferait pas partir comme ça. Enfin, c'est donc un groupe qui est implanté depuis le début des années 2000.
Les FSR, alors bon, il faut bien comprendre de quoi on parle. Les FSR, c'est une milice paramilitaire qui est devenue aussi grosse que l'armée soudanaise et qui est composée à la fois de combattants anciens qui remontent au conflit d'il y a 20 ans, qui a une base communautaire, c'est-à-dire c'est les tribus arabes du Darfour essentiellement, et qui a aussi une forte composante de mercenaires étrangers qui viennent des pays de la région, donc le Tchad, le Sud-Soudan, peut-être la Libye aussi, etc. Et donc, défaire les FSR, c'est d'une part, ça aboutira d'une part au départ des mercenaires étrangers qui repartiront d'où ils viennent, évidemment. Ça aboutira aussi à défaire les combattants locaux, je peux dire. Et après, ça posera le problème fondamental de l'allégeance des tribus arabes du Darfour au nouveau pouvoir. Et on l'a vu dans le passé, et c'est en train de se reproduire maintenant, comme cette guerre a une base communautaire, qui sont ces tribus arabes du Darfour, la répression se fera sur les populations, sur ces populations darfouries. On voit déjà, donc l'armée a déjà été accusée d'avoir éliminé un certain nombre de gens à Khartoum, quand on a repris la ville, etc. Et donc c'est ce genre de problème. Les FSR sont aussi accusés de génocide au Darfour par les autorités américaines, mais eux aussi ont éliminé les gens qu'ils considéraient de la population comme des soutiens de l'armée. Donc chacun fait la même chose, si je puis dire, pour en effet se venger en quelque sorte et réprimer la base communautaire de l'autre. Mais il est clair que le Darfour, la bataille du Darfour, parce que une fois que l'armée aura fini de prendre le centre du pays, elle se dirigera vers le Darfour. La bataille du Darfour risque d'être sanglante. Elle est déjà, de toute façon, cette guerre est déjà sanglante, mais là, ça risque d'être pire parce que l'armée a des capacités de bombardement qui sont assez significatives.
Merci beaucoup pour ces premières réponses. On continue juste dans un instant l'interview. Restez avec nous. On va juste faire une petite pause musicale sur Radio Campus Paris. To break down the blue with the snow.
C'était Chance de Rumeur sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Juste avant la pause musicale, Guillaume interviewait Thierry Vircoulon sur la reprise de la ville de Khartoum par l'armée au Soudan ainsi que sur la guerre qui dure là-bas depuis des années. Est-ce que vous êtes toujours avec nous ?
Et oui, on est toujours présent. Cette interview continue. Et donc justement, on démarrait cette interview en parlant de l'actualité de la prise de Khartoum par les forces armées soudanaises. Et justement, cette armée, donc, elle regagne petit à petit du terrain, pas seulement à Khartoum. Alors, une question assez simple, Thierry Vircoulon. Comment est-ce qu'on explique ce succès récent là, de l'armée régulière ?
L'armée avait en effet, au début du conflit, perdu beaucoup de terrain très rapidement par rapport au FSR. Et elle a, à partir de l'année dernière, elle a commencé à en reprendre. Justement parce qu'elle a été réapprovisionnée, elle s'est rééquipée grâce à une coalition de partenaires étrangers qui est une coalition assez diverse, qui comprend l'Égypte, qui comprend la Turquie, qui comprend l'Iran, qui comprend un peu Moscou aussi. Et donc c'est grâce à ces fournisseurs d'armement qu'elle est en train d'inverser le rapport de force.
Et pour faire la guerre, il faut des hommes. Quand on regarde justement par exemple dans le cas du FSR, alors ils sont accusés d'exactions particulièrement insoutenables. Alors, on parle de viols, de crimes des crimes de guerre, des punitions arbitraires dans certaines villes. On parle aussi, alors un journaliste de Libération qui s'était rendu au Soudan donc récemment parlait lui aussi du pillage systématique des villes. Avec une réputation de destructeur pareil, moi je me demandais sur comment est-ce que le FSR fait pour recruter des hommes.
Tout simplement parce qu'il y a quand même une politique, un contexte politique derrière, qui est que le FSR incarne d'une certaine façon dans la politique soudanaise les périphériques. Parce que dans l'histoire soudanaise, il y a ce qu'on appelle l'état de 56, qui est le fait qu'on considère qu'à l'indépendance, le pouvoir a été monopolisé par les régions du centre du pays, et notamment l'élite de Khartoum, aux dépens des périphéries, puisque c'est un très grand pays, donc il y a plusieurs grandes régions périphériques. On parle du Darfour, mais il y a aussi une autre grande région périphérique qui s'appelle le Kordofan, qui est au sud. Et donc ces régions sont toujours considérées comme étant historiquement désavantagées par le pouvoir central. Et du coup, les FSR incarnent en partie cette rébellion ou ce mécontentement des régions périphériques. Et c'est pour ça qu'ils ont réussi à entraîner avec eux d'autres groupes armés de régions périphériques contre l'armée soudanaise. Mais bon, ces alliances sont en train de se défaire parce que c'est des alliances qui finalement étaient assez opportunistes aussi. Et donc au fur et à mesure de la progression de l'armée, on voit qu'un certain nombre de groupes armés d'autres régions sont en train de changer de camp, en ce modo. Mais il y a quand même cette dimension politique des FSR qui fait qu'ils incarnent justement cette région, les régions périphériques et le mécontentement des régions périphériques par rapport au gouvernement central.
Alors début janvier, l'administration de l'ex-président américain Joe Biden, alors vous l'aviez brièvement dit, a annoncé des sanctions contre Emmett Till, donc le chef des FSR, notamment pour génocide. Et quelques jours plus tard, donc cette même administration américaine sanctionne leur adversaire, donc les forces armées soudanaises, pour avoir notamment utilisé la privation de nourriture comme arme de guerre. En sanctionnant les deux parties, quels effets ont cherché les États-Unis à ce moment-là ?
C'était la fin de l'administration Biden, donc en fait, il n'y avait pas de... Comme ils étaient partants, je pense qu'ils voulaient surtout laisser... envoyer le signal qu'ils prenaient des mesures contre les deux parties et qu'ils osaient accuser l'une des parties de génocide, pensant que l'administration suivante, donc l'administration Trump, ne ferait pas grand-chose sur ce dossier. Ce en quoi ils ont raison pour le moment, parce que l'administration Trump ne s'est pas encore saisie du dossier soudanais. Et donc il y a des sanctions sur les deux parties, parce que sur le plan des violations du droit de la guerre, les deux parties s'en donnent à cœur joie. Donc voilà.
Autre question, c'est les casques bleus de l'ONU, où est-ce qu'ils sont ?
Là, il n'y a pas de casque bleu de l'ONU au Soudan.
Exactement. Mais est-ce qu'il... pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'accord de paix. Pour qu'il y ait un déploiement des casques bleus, il faut qu'il y ait un accord de paix entre les belligérants. Et donc, comme là, les belligérants font la guerre, il ne peut pas y avoir de casque bleu.
Et donc, vous mentionniez, par exemple, le fait qu'il y a des approvisionnements en armes qui viennent également de pays étrangers. Vous parlez de l'Iran ou de la Turquie, par exemple, dans le cas des forces armées soudanaises. Est-ce que, d'ailleurs, le FSR est également, lui, soutenu en termes d'armes par des pays étrangers ?
Oui, il a aussi une coalition d'alliés qui le fournissent. Alors, il y a dans laquelle on trouve le général Haftar, donc celui qui dirige la partie orientale de la Libye, dans laquelle on trouve les Émirats Arabes Unis, surtout, qui jouent un rôle important, le Tchad également, le Sud-Soudan aussi est accusé de les soutenir, et puis le Kenya aussi, qui... a récemment accueilli la formation d'un gouvernement parallèle qui a été lancé par les FSR.
À partir du moment où on a donc ces deux forces armées qui sont soutenues donc, par différentes puissances étrangères donc, qui sont en train de s'affronter, quelle est la meilleure issue possible pour les civils soudanais pour que ce conflit s'arrête ? C'est quoi les prochaines voies ?
L'armée, comme on le disait, est en train de progresser, donc elle est en train de prendre la main. On va voir si, ils finissent par gagner la guerre, ce qui sera... s'ils gagnent la guerre, elle s'arrêtera, en tout cas dans cette version-là. C'est ça l'horizon qu'on a actuellement. C'est, comme on sait que c'est un conflit... qui est existentiel entre le général Al-Burhan et le général Hemeti. On voit difficilement, il y a eu des tentatives de médiation qui ont tout échoué, donc on ne voit pas de sortie négociée sur ce conflit. Et donc la perspective d'une victoire militaire, pour le moment, a l'air d'être le scénario le plus probable.
Donc on voit effectivement que cette armée régulière est en train de gagner du terrain, prend l'avantage. Quelle est la position de l'Europe et de la France vis-à-vis de ce peut-être potentiel prochain vainqueur et donc dirigeant du Soudan ?
Pour le moment, comme toujours dans une guerre, les gens restent silencieux et attentifs, parce que il s'agit pas de prendre parti avant qu'on connaisse l'issue du conflit. Il y a eu des condamnations aussi sur les violations du droit de la guerre par l'Union européenne, ce qui est assez classique. Il n'y a pas plus de positionnement que ça. L'Union européenne ne s'est pas impliquée dans une médiation ou quoi que ce soit. La France a organisé un sommet à Paris sur l'aide humanitaire pour le Soudan, pour faire des levées de fonds. Mais il n'y a pas plus de positionnement que ça, parce que c'est pas non plus un conflit. C'est plutôt un conflit où les tentatives de médiation sont venues du côté arabe et du côté américain au début, mais sans succès, mais pas du côté européen. Il y a peu d'implications européennes dans cette partie du monde.
Merci énormément Thierry Virculon d'avoir été présent à notre micro ce soir, et merci Guillaume pour ces questions super intéressantes.
La matinale de 19h.
Et après cette interview, Isnel, tu as quelques bonnes nouvelles pour nous.
Alors oui, on va parler du changement d'heure. Est-ce que c'est une tradition en sursis ? Deux fois par an, c'est le même rituel. En mars, on avance d'une heure. En octobre, on recule. Une habitude bien ancrée, mais dont l'utilité est de plus en plus remise en question. Initialement pensé pour économiser de l'énergie, le changement d'heure fait toujours son débat. Son efficacité est désormais contestée et elle n'est pas anodine. Alors faut-il la conserver ou faut-il en y mettre fin ? Petit retour sur son histoire. Alors, donc, c'est un dispositif bien ancien. On peut retrouver en 1784, Benjamin Franklin qui suggérait déjà de mieux utiliser la lumière naturelle. Mais c'est en pleine Première Guerre mondiale que l'Allemagne, suivie par la France, instaure officiellement l'heure d'été pour économiser du charbon. Puis, après plusieurs allers-retours, la mesure est réintroduite en 1975 après le choc pétrolier. Depuis 1998, toute l'Union européenne suit le même calendrier. Passage à l'heure d'été le dernier dimanche de mars et puis au retour à l'heure d'hiver en octobre. Mais derrière cette harmonisation, les critiques s'accumulent. D'abord, comme je l'ai dit, c'était à l'origine pour réduire la consommation d'électricité, mais dans les années 2000, on constate que on parle seulement de entre 0,1 et 0,5% de la consommation totale d'électricité qui serait économisée. Donc pas grand-chose finalement. Autrement dit, vraiment pas de quoi faire une réelle différence. Et donc, on parle également d'un impact réel sur la santé. Si l'intérêt énergétique est discutable, les effets sur la santé sont, eux, bien réels. En effet, on parle d'une perturbation sur notre horloge biologique, perte de sommeil, troubles de l'attention et même une légère hausse du risque de crise cardiaque dans les jours qui suivent. Et puis, pour les travailleurs de la nuit, c'est justement complique encore plus l'organisation au niveau des certaines entreprises, au niveau des salaires. Il y en a qui proposent des compensations, mais ce n'est pas toujours systématique. Un avenir incertain, puisque face au constat de tous ces constats qui ont été critiqués après les années, il y a eu plusieurs idées pour abandonner le changement d'heure. Ça a fait son chemin au Parlement européen en 2019, qui, avec un vote pour voter pour sa suppression. Mais tout a été reporté depuis, entre crise sanitaire, tensions géopolitiques, la réforme est maintenant toujours au point mort. Donc, en 2025, rien ne change. On avancera toujours d'une heure en mars et on reculera toujours en octobre. Mais jusqu'à quand, la question reste ouverte. En tout cas, notez bien la date. Dans la nuit du 29 mars jusqu'au dimanche 30 mars 2025, on passe à l'heure d'été. Alors bon, à défaut d'économiser vraiment beaucoup d'énergie, on peut déjà profiter au moins d'une soirée un peu plus lumineuse.
Merci beaucoup Isnel pour avoir bouclé cette première partie d'émission. Et tout de suite, une autre petite pause musicale avec Le ciel ne me regarde plus de Yalify.
Encore une mélotrice pour dire que j'ai bientôt plus de souffle. Je suis silencieuse dans le bruit, je redémarre pas, je bloque la touche. Besoin d'hurler mais y'a encore rien qui sort de ma bouche. Je décrocherai un sourire mais bien sûr que ça me touche. J'ai eu peur de tes yeux comme j'avais peur du ciel. Mais le ciel ne me regarde plus. Ne me regarde plus. Je laisse une fois ta possession. J'arrive à parler que dans mes songes. J'ai de l'inspi quand tu pop dans mes songes. Tu me fais du mal, je donne les munitions. Tu me l'as pas demandé mais je suis restée sage. Tu te fais pas sur un, je suis tombée de mille étages. J'ai le démon, les autres m'intéressent. Ah, mon mascara mouillé fait des taches. Sur l'oreiller d'un autre. Thank you.
C'était Le ciel ne me regarde plus de Yalifai sur Radio Campus Paris.
La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
Des marches contre le racisme et le populisme ont été organisées un peu partout en France ce samedi 22 mars. Dans le viseur des organisateurs et organisatrices, la politique du gouvernement sur l'immigration, la progression électorale du FN ou encore l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Le cortège est parti à 14h, place de la République. Un reportage signé Guillaume Bern.
On avait dit plus jamais ça, la France ne serait rien sans l'immigration et portrait de Donald Trump à côté de celui d'Adolf Hitler, les slogans antiracistes se sont multipliés sur la place de la République ce samedi 22 mars. Au total, 21 500 personnes ont défilé à Paris au lendemain de la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale. Parmi les manifestants, Charles, étudiant en droit, keffier sur les épaules, encore sous le choc des bras tendus du milliardaire Elon Musk et d'un conseiller de Donald Trump.
2025, c'est quand même le retour des saluts nazis. Je pense que c'est pas extrême ou très controversé de dire qu'on n'aime pas trop ça. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de gens qui le disent. Donc on se sent assez impuissant seul, on se rassemble. Donc ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas les seuls à voir des saluts nazis et se dire « on n'aime pas trop ça ».
Au milieu des drapeaux violets, Yelena Mandangue, militante chez nous toutes, se réjouit aussi de ce bain de foule après une année particulièrement angoissante.
C'est essentiel aujourd'hui d'être là, d'autant plus avec le contexte politique qu'on connaît, les événements de cette semaine qui ont été particulièrement violents, avec ce qui s'est passé à la Gaîté Lyrique et les bombardements à Gaza. Bon, ça a été une semaine qui a été extrêmement dure politiquement, humainement en fait, tout court. Et donc, c'était important aussi de se réunir aujourd'hui, d'avoir une espèce de... une espèce de liesse, de joie collective militante pour un peu se régénérer aussi, retrouver de la force pour pouvoir continuer à lutter contre l'extrême droite.
Parmi les causes de la mobilisation, une actualité bouillonnante avec l'ouragan Trump aux États-Unis et la percée du Rassemblement National en France, mais aussi une politique anti-immigration ferme du nouveau gouvernement français. Sous une forêt de drapeaux rouges et jaunes de la CGT Métallurgie, Moussa Kall est venu manifester, lui, contre la nouvelle circulaire de Bruno Retailleau. Le ministre de l'Intérieur a ainsi fixé fin janvier de nouvelles règles plus strictes sur la régularisation des travailleurs étrangers.
Cette année, ça va être compliqué pour nous, parce que la loi qu'ils disent immigrés, mais nous, on est là pour travailler, on travaille, on paye les impôts. On paye tout, on paye la loyer, on paye le... Mais on est travailleurs, on travaille. Mais la loi qu'il fait, c'est pas bon pour nous.
Le nombre de rassemblements sur tout le territoire a presque triplé par rapport aux précédentes éditions de la marche, passant d'une soixantaine en moyenne à 160 cette année. Guillaume Bernès, Radio Campus Paris.
Merci encore Guillaume pour ce reportage. Et maintenant à la matinale, c'est le Zoom.
Le Zoom, dans la matinale de 19h.
Avec nous ce soir, Natacha Ratteau, vous êtes l'autrice de la BD qui s'intitule « Sex, Drug et RER ». Bonsoir.
Bonsoir tout le monde et merci de me recevoir sur Radio Campus.
Eh bien, bonjour Natacha, si tu es avec nous aujourd'hui, c'est parce que tu as sorti le 26 février dernier aux éditions Delcourt le premier album de ta série Sex, Drug and RER, originellement publié sous la forme d'un webtoon. Les webtoons, pour les néophytes, ce sont des BD qu'on lit sur téléphone en scrollant. Et dans ce premier tome, on suit donc l'histoire de Léon, jeune charentais propulsé à Paris à la Sorbonne pour sa première année de master. Mais justement, cette première année, il lui arrive plein de péripéties. Il vit en banlieue parisienne, il rencontre son futur meilleur ami Félix, Anissa et toute une bande d'amis. Comment tu l'as construite, cette histoire ?
Alors comment je l'ai construite cette histoire ? Bien, un petit peu par hasard, parce que quand moi-même je faisais mes études, j'allais souvent me poser sur les bords de Seine à Paris pour faire des petits croquis, dessiner les gens que je croisais. Et ça a donné naissance à ces personnages. Et puis après, j'ai commencé à les faire interagir entre eux. Donc j'ai posté des petits strips sur Instagram de ces petites histoires sans grande ambition, qui ont commencé à avoir du succès. Et là, mon nombre d'abonnés a grossi. J'ai été contactée par Webtoon parce qu'ils avaient envie de me faire signer un contrat avec eux pour une série. Et là, j'ai dû réfléchir à une histoire à long terme. Alors, j'aurais inventé un passé, un avenir. Et c'est là qu'est née l'histoire de Léon qui débarque à Paris. Il me semblait que c'était une histoire assez universelle à laquelle beaucoup d'étudiants pouvaient s'identifier.
Et pourquoi ce choix de le faire habiter en banlieue parisienne et non à Paris intramuros ?
Car moi-même, je viens de banlieue parisienne, je viens de banlieue sud, l'Essonne représente. je trouve que cette banlieue un peu pavillonnaire, un peu ennuyeuse, elle est très souvent mal représentée ou pas représentée du tout dans les médias. Parce que comme je le dis au début de la BD, enfin c'est plutôt Félix qui le dit, souvent quand on parle de banlieue, on va penser à des choses assez violentes. Et en fait, on va dire que 90% du temps, on s'ennuie juste.
Et donc, c'est une partie de ta vie que tu as mis dans ta BD à travers ce choix ?
Voilà. Pas vraiment. Ma vie, c'est pas une autobiographie. Plutôt une sorte de collection de moments, de personnalités qu'on peut croiser quand on est étudiant, quand on vit en banlieue.
Ok. Et l'un des thèmes de ce premier tome, c'est justement l'adaptation de Léon à la vie parisienne, au trajet en RER. Est-ce que ça a été ça aussi une part de ta vie ?
Tout à fait. En fait, pendant toute ma licence, je continuais à vivre sur le RERD et tous les jours, je faisais ces trajets. Ça a eu une certaine influence sur ma santé mentale, je pense, à l'époque. Et c'est un monde à part entière, les trajets de RER. Donc voilà.
Léon, justement, c'est le perso. Est-ce qu'on peut le considérer comme le personnage principal de la BD ou alors toute la bande qui l'entoure, ça en fait partie ?
Dans le premier tome, il est assez central. En fait, je l'ai choisi comme personnage principal du premier tome parce que c'est un petit peu le héros de BD typique, le mec blanci, timide, voilà, qui est le héros de shonen en fait, presque, avec ses cheveux en pointe. Et du coup, ça fait une entrée dans l'histoire qui est plutôt qui est plutôt habituelle. Et après, à partir de là, j'ai essayé d'amener les lecteurs vers des personnalités plus différentes, peut-être plus diverses qu'on voit moins représentées.
Oui, il y a par exemple Anissa, l'un de mes personnages préférés que j'ai déjà cité, qui est un peu l'archétype, on peut dire que c'est un peu l'archétype de la girl boss, non ?
Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. La girl boss, c'est franchement un trope qui est, je dirais, qui a été surexploité ces dernières années et Anissa le prend un petit peu à contre-pied, quoi.
Ok. Et tu t'as dit un truc juste avant, c'est que Léon, c'était l'archétype du héros shonen, mais c'est un peu un loser, non ?
Ouais, c'est un peu un loser. Mais justement, c'est l'archétype à la base, parce que le type qui est lambda, absolument, qui n'est pas très grand, qui a les cheveux en triangle. Et lui, en fait, comme il n'est pas dans un monde de shonen et qu'il est dans notre monde à nous, malheureusement, il va parfois avoir le comportement des personnes qui ont le même profil que lui. Donc, il ne va pas toujours être un héros exemplaire.
Oui, ce sera pour les prochains tomes, il me semble.
Tout à fait.
Mais déjà, dans ce tome-là, on peut voir que tu vas aborder de nombreux thèmes qui sont assez actuels quand même. On parle d'acceptation de soi, de son corps, de ses préférences amoureuses aussi. Et est-ce que cette volonté d'incorporer ces éléments-là dans cette BD, d'où elle te vient ?
D'où elle me vient ? Parce que, justement, quand j'étais étudiante, je me suis beaucoup renseignée sur le féminisme, par exemple. C'était vraiment quelque chose qui m'a intéressée à ce moment-là. Donc, énormément de lectures sur le sujet, je pense, qui ont nourri mes réflexions autour de la bande dessinée. Et le reste, c'est issu d'observations que j'ai pu faire.
Mais est-ce qu'on peut dire que ta BD, c'est une BD engagée ?
Pas vraiment. Oui et non. Dans le sens où c'est plutôt une porte d'entrée qui va ouvrir des pistes de réflexion. Mais après, il n'y a pas vraiment de revendication dans la BD, en fait. Chacun peut y prendre aussi ce qu'il a envie d'y prendre. Alors, il y a des personnes que ça a fait réfléchir, qui sont venues me contacter après sur les réseaux sociaux pour me dire « j'ai changé d'attitude avec ma copine après avoir lu ta BD ». Mais je pense aussi qu'en passant, par exemple, par le biais de Léon, on n'attaque pas le lecteur de front en lui disant « toi, tu es un gros machiste ». Non, on le prend un peu par la main, on lui fait faire, on lui fait vivre peut-être plus différentes aventures et ça va l'amener lui-même à réfléchir à la vie, à ses propres comportements peut-être.
Oui, je me rappelle un moment dans le webtoon, pas le tome 1, c'est que Léon, il se pense, en fait, Léon se pense comme le nice guys, entre guillemets. Et pourtant, il ne l'est pas vraiment. C'est ça ce que tu essaies parfois de montrer à travers lui ?
Oui, voilà, ça, c'est que chacun est... Enfin, tous les personnages sont beaucoup plus nuancés que peut-être que ce qu'on voit dans le tome 1, justement. Bon, pour l'instant, c'est celui qui est sorti en librairie. Je vais pas non plus trop le descendre. Il y a le tome 2 qui arrive très vite. mais oui, voilà, ça a apporté de la nuance aux personnages. Et Léon, bah, parfois, il peut avoir un comportement de nice guy, justement. Mais heureusement, le casting de perso est assez varié pour que bah, Anissa, dont on parlait précédemment, elle a ses propres problèmes. C'est pas un personnage parfait, mais sur ce point-là, elle peut le rembarrer et lui dire « Écoute, frérot, t'abuses. Mm-hmm. »
Oui, je me rappelle, bah oui, Anissa, c'est une bande d'amis, il y a des couples qui se forment, qui se défont, qui se refont, qui vont se faire entre d'autres personnages, il y a des nouveaux personnages qui vont changer, je pense... Non, je ne vais pas spoiler sur ce Redemption Arc, mais il y avait un autre point de la BD sur lequel je voulais t'interroger, c'était le style. Comme je l'ai dit, c'est sorti sur Webtoon auparavant, et pourtant c'est un style franco-belge, et il me semble que c'est un style que tu revendiques.
Tout à fait. Alors... C'est sorti à l'époque où la plateforme Webtoon venait d'arriver en France, donc 2020. Il n'y avait pas que le Webtoon à l'époque, on va parler que de ça. Et le Webtoon, ça vient de Corée, donc la plupart des œuvres traduites sont des œuvres coréennes avec un style graphique manois. Voilà. Et Webtoon a fait appel à l'époque à des auteurs français parce qu'ils avaient envie de diversifier, d'apporter une offre plus variée. Et notamment en termes de style graphique, d'avoir des choses un petit peu différentes, surtout dans tout ce qui était comique, humour, tranche de vie. Moi, ça me convenait parfaitement parce que je revendique vraiment des inspirations très très franco-belges. J'avais parlé de Franck Margerin dans une interview, mais genre Gottlieb, tout ça, enfin, c'est des franquins, c'est des choses qui ont bercé mon enfance.
D'accord. L'interview touche bientôt à sa fin. Est-ce que, en fait, Sex, Drug & RER, c'est une BD qui parle principalement aux jeunes, et quel message t'aurais à faire passer, si t'avais un message à faire passer aux jeunes, toi maintenant, de ta position d'adulte, quel ce serait ?
Accrochez-vous, vraiment, ça devient plus facile en vieillissant, je vous le jure. Vraiment. Alors accrochez-vous.
Ok, très bien. Merci Natacha, l'autrice de Sex, Drug & RER, dont le tome 1 est disponible aux éditions Delcourt dans toute bonne librairie et aussi en précommande. Il y a aussi des dates de dédicace pour ceux qui le souhaitent. Donc alors il y a le 29 mars à la médiathèque Colette dans le 91, le 5 avril au festival Les Bulles de Saint-Lieu dans le 78, et du 11 au 13 avril tu seras au festival du livre de Paris au Grand Palais.
Alors la médiathèque Collect, c'est Alice, et les Bulles de Saint-Leu, je me suis trompée, c'est dans le 95. Ah, voilà, désolée, c'est de ma faute.
C'est une faute sur son Instagram, si je peux me permettre.
Tout à fait.
Et je rajoute aussi que tu as un nouveau projet sur Webtoon qui s'appelle Jobless, en collaboration avec Issa Boone. C'est un nouveau projet très drôle que je recommande à tout le monde.
Bah, merci beaucoup, merci Hugo, merci Natacha, ça me fait rire parce que je viens aussi de la banlieue. 92, j'ai pas lu. Enfin, dans le 92, j'ai pas lu la BD, mais je la lirai. Peut-être ça va me rappeler des trajets en RER aussi que j'ai fait. Merci beaucoup pour ce zoom, et on quitte cette partie de l'émission, pardon, avec Euro Trash Girl de Chicks and Spread. Euro Trash Girl. Euro. Trash girl. Well, I've been up to Paris, and then I slept in the park. Went down to Barcelona, and someone broke into my car. Yeah, I've searched the world over for my angel in black. I've searched the world over for a Euro trash girl. Took the train down to Athens, and then I bathed in a fountain. Some Swiss junkie in Turin ripped me off for all my cash. I've searched the world over for my angel in black.
On the metro, they shook me down for this bribe. On my knees for the searching, when my passport it finally arrived, called my mom from a payphone, said I'm down to my last, and she said that she would send me to college, and I should call my dad. The waitress that you married, well, she hung up the phone. You know, she never did like me, but I can stand on my own. Sold my plasma in Amsterdam, and then I spent it all in one night, buying drinks at the Milkvee for a soldier in red. Search the world over for my angel in black. I've searched the world over for your trash girl.
Ma langue a encore fourché, c'était Eurotrash Girl de Chicks on Speed.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
Delila, tu nous parles de quoi ce soir ?
Alors cette semaine, je vais tout simplement vous parler de Gérard Depardieu, hein, de notre bon GG, agresseur national qui est en procès depuis mardi, donc accusé de tous les torts. GG, il a tenté le coup de poker jamais vu. D'habitude, les excuses, c'est pas moi, j'ai rien fait, c'est le chien qui a mangé mes devoirs. Ou encore, c'est pas moi, c'est elle, monsieur l'arbitre, elle m'aguiche. Mais là, il nous a sorti, je ne sais pas ce que c'est qu'une agression sexuelle. Alors moi, je trouve que c'est hyper pratique et créatif, et je pense que je vais l'utiliser tout le temps. Par exemple, contrôle des transports, s'il vous plaît. Alors moi, je connais le métro, la voiture, le train, l'avion. Excusez-moi, vous venez de voler sous mes yeux, là. Voler comme un oiseau. Ben, j'ai pas d'aile, pas du tout. Alors je résume, 16 coups de poing, 36 coups de pied et un coup de couteau, un véritable passage à tabac. Mais enfin monsieur le juge, je ne fume même pas, j'ai même pas de briquet sur moi. Non sérieux, pour un mec qui a joué Cyrano, il a du pif. Cette blague vous a été proposée par l'ANGT, l'Agence Nationale des Gros Tarbouifs. Bon, on savait déjà qu'il était bon acteur, donc je suis pas spécialement étonné de sa défense, mais quand même, après les images de lui et Yann Moix en Corée du Nord, je trouve ça fou de réussir à nier en bloc. Yann Moix, bah, évidemment, il a fait pareil avec une autre défense, à savoir, c'était de la fiction, on jouait des personnages. Pour rappel, ils ont filmé des images en Corée du Nord pour faire un film, et il y a des passages horriblement sexistes qui ont fuité. Bon, évidemment, les mentions ne s'arrêtent pas là. Chez Pascal Praud, Yann Moix a dit qu'il était un immense écrivain. Là, je ne sais pas s'il joue encore un personnage, mais le boulard est tellement gros que la NASA a décidé que c'était une planète, vraiment à la place de Pluton. Ça va être le truc où on se demande si c'est assez gros ou pas. Il se compare en permanence à Bertrand Blier pendant l'interview chez Pascal Pro, et en plus il nous casse les couilles en nous disant ouin ouin, j'ai écrit un livre en alexandrin, j'ai mis 5 ans à l'écrire et personne n'en parle. Mais Yann, moi je poste mes chroniques sur les réseaux et personne ne les partage. Tu crois que ça fait de moi un prix Nobel incompris? Le mec il nous dit que dans son film il y a des passages époustouflants qu'on verra jamais. À un moment, et je vous jure que je n'invente rien, il dit: on a filmé des images exceptionnelles où Gérard remet un skateboard au ministre de la culture nord-coréen qui lui-même le remet à Kim Jong-un. Alors moi je vais faire pareil du coup, en fait on m'a volé un film et dans ce film on voyait Elisabeth II faire de l'aquabike, qu'elle faisait l'amour à François Mitterrand et ensuite François Mitterrand hurlait « Vive la France !» en éjaculant. Ah non pardon, ça c'est le pitch du dernier bouquin de Marlène Schiappa. Bref, force aux victimes du gros porc, je suis grosse donc j'ai le droit, et puis il y a de moi que c'est Depardieu, bah, je vous emmerde, voilà. C'est une chronique hashtag engagée, bonne soirée tout le monde.
Bah merci, merci Delila. J'aimerais beaucoup lire le livre que tu as écrit avec Elisabeth II et Mitterrand, s'il te plaît.
Je ne manquerai pas de le publier si je retrouve les pages.
Bah merci, merci. Et c'est déjà la fin de la matinale. On pleure, vous pleurez chez vous, je le sais, je vous entends. On se quitte quand même dans la joie et dans la bonne humeur, car le printemps arrive et avec lui mon anniversaire bientôt. N'oubliez pas de me le souhaiter. Merci à nos invités ce soir, Thierry Vircoulon et Natacha Ratto. Merci aux bénévoles avec nous ce soir, Guillaume, Isnel, Hugo et Delila, Maywen et Alice à la coordination, Gabriel à la réalisation, qui me fait un geste pour ne pas que je l'oublie, mais je ne l'ai pas oublié. Tout de suite c'est le monde zygomatique avec Simon, on parle de quoi ?
Bonsoir Sofiane, la dernière fois qu'on était en face à face à travers cette vitre, ça s'est très mal passé juste après.
C'est vrai,
tu te souviens ?
Je me souviens.
Pour l'instant ça part bien.
La cartouche est en vie.
On verra. L'ordinateur est en vie, on verra bien. On sera pas avec Cyril Hanouna ce soir.
Oui, Cyril.
Puisque il est très occupé avec la dernière de Touche pas à mon poste.
De Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna. Va-t-il passer sur W9 ? Va-t-il passer à l'inconnu ?
Bien sûr.
Nous le verrons.
Et plein d'autres actus. Et de l'humour.
Et de l'humour. Que de l'humour. Écoutez, restez connectés car c'est le monde de zygomatique sur Radio Campus Paris. Et j'en fais partie. On se retrouve très vite à la matinale. See you later.